autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour nous interroger sur le pouvoir de la voix. Notre voix humaine et sa mystérieuse force d'attraction. Il y a celles qui nous envoûtent, qui nous charment, et celles qui nous dérangent et nous repoussent, celles qui nous font peur et celles qui nous touchent au plus profond. Comment se forme une voix? Est-il possible de la travailler, de la réparer? Jusqu'où la voix peut-elle nous entraîner? Voilà ce que nous nous étions demandé en juillet dernier avec le chirurgien et phoniatre Jean Habitbol, auteur du « Pouvoir de la voix », un ouvrage dans lequel il a livré quelques-uns des secrets des plus grandes voix, de la chanson, du spectacle ou de la politique qu'il a croisé, réparé et soigné. Autour de la question « Comment faire entendre sa voix ?» sur RFI, bienvenue. Bonjour Jean Habitbol.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes un des plus éminents spécialistes de la voix, chirurgien ORL et phoniatre. Vous avez reçu les plus grands artistes de la voix, mais aussi des anonymes qui ont pu faire ou refaire entendre leur voix grâce à vous. Une formidable aventure médicale, scientifique et surtout humaine que vous avez partagée dans un premier livre, L'Odyssée de la voix. Aujourd'hui, c'est Le pouvoir de la voix, titre de votre dernier ouvrage paru aux éditions Alary. La voix, Jean Habitbol, continue de vous fasciner, oui, et de vous émerveiller. C'est, oui, un trésor, vous dites.
C'est un trésor inestimable, parce que la voix, c'est une force impalpable qui parle beaucoup plus avec ses émotions qu'avec son côté cartésien. La preuve en est, c'est que lorsque un Chinois, par exemple, va me parler, va me dire des mots extrêmement gentils, je vais comprendre qu'il est bien avec moi, ne serait-ce que par sa façon de dire sa phrase, de sa musique vocale. À l'inverse, si j'ai quelqu'un qui va me crier, je connais pas la langue, je sais que c'est pas terrible. Donc la voix elle-même est la traduction non seulement de nos émotions, mais de notre sincérité. Et la force de la voix, le pouvoir de la voix, fabuleux, c'est de voir si quelqu'un est sincère ou pas. Cette connexion
on
entre...
s'en rend compte au ton de la voix.
Tout de suite. Si quelqu'un vous dit, vous avez un ami, vous dites « Allô, bonjour, tu vas bien ?»« Oui, oui, je vais bien. » Non, 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 j'entends que tu ne vas pas bien. Juste le « Oui, oui, je vais bien », en quelques secondes...
Tout transparaît dans notre voix.
Ouais, exactement. Vous constatez qu'il ne va pas bien. Eh bien, c'est pareil avec n'importe quelle personne autour de vous, car la politesse va habiller votre civilité en faisant croire que vous le croyez, j'allais dire, mais pas du tout. Vous savez parfaitement, s'il n'est pas en connexion, sa sincérité va en pâtir.
J'en perds ma voix autour de la question. Comment faire entendre sa voix? Je propose de commencer par quelques pistes de réflexion, forcément sonores et vocales, avec le mix sur la bonne voix d'Apolline Verlon-Raison. Quel est le pouvoir de la voix?
La règle de base, c'est de savoir contrôler sa voix, car celle-ci vous trahira si vous perdez le contrôle.
Je ne m'énerve pas. Très bien. Je suis
qu'est-ce
en
que
colère.
Ça doit être quand vous êtes énervé, alors?
La voix qui porte, dites-vous, les cicatrices de la vie.
Comment ça marche, la voix?
Lorsque vous êtes très contrarié, le stress, par exemple, va créer une voix un peu dans les aigus, comme ça.
Alors pourquoi certaines voix nous attirent ou nous séduisent?
C'est pas possible, je parle pas comme ça.
La voix, c'est l'instrument par excellence de l'être humain.
Sur 6 milliards d'individus, on a 6 milliards de voix différentes, chacun a son empreinte vocale. Pourquoi ?
Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir.
Instrument de la vérité de chacun d'entre nous, reflet de notre personnalité.
Comment avoir une plus belle voix ?
Le miel pouvait avoir un effet adoucissant sur la voix.
Les recommandations étaient d'avoir une voix chaleureuse, d'avoir de l'entrain.
Vous, manager, créateur ou dirigeant d'entreprise, eh bien vous pouvez passer un cap professionnel grâce au travail de votre voix.
Ma voix, ma vraie voix, la mienne, je la connais depuis très longtemps. Because
you're mine. Est-ce que des gens se font modifier la voix parce qu'elles en souffrent, comme certaines personnes font de la chirurgie esthétique d'une partie de leur corps ?
De Churchill, la voix rassurante de Chirac, la voix cassée de Clinton.
Je peux parler avec une voix très emphatique et un peu douce, en même temps soufflée.
Ou avec une voix très aiguë et très contrainte, très crispée.
Jean Abitbol, que vous inspire.
Quel florilège.
Ah oui, hein, ouais, magnifique très, voix ouais, réalisée par Apolline Berland.
Ah oui, remarquable. Dans ce qu'on entend et dans ce qu'on vient d'écouter, finalement, à chaque élément, ça va tellement vite, et à chaque fois, on a une réaction différente. À chaque fois qu'on a entendu, notamment si on prend cette parole très forte de ce dictateur, à l'époque où il parle un allemand, mais rappelez-vous Chaplin, dans Le Dictateur, qui ne parle pas allemand. On a l'impression d'écouter. Donc c'est la musicalité de la voix, c'est les temps, entre guillemets, de silence entre les mots, c'est la façon dont vous allez agencer le mot et la chute à la fin de votre phrase qui va faire une certaine forme de pouvoir de votre voix.
C'est et un instrument,
preuve,
oui.
Oui, et j'en veux pour preuve que un diplomate, un acteur, un politique que l'on va entendre jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui, lors de la fin de phrase, va terminer dans les graves. Et va pas terminer dans les aigus, comme je suis en train de faire. Parce que là, on va zapper
c'est très
en
désagréable.
Quelques secondes.
Ouais,
c'est très
ouais.
désagréable.
On aime les voix plus graves, enfin quelque chose dans le grave qui nous rassure ou
voilà.
qui nous...
Voilà, exactement. On aime les voix qui vont quelque part vous envelopper, mais d'une façon sincère. Jouer avec une voix, vouloir être dans les graves alors que c'est pas naturel, c'est pas bon. En revanche, terminer une phrase dans les graves avec un certain silence après vous met à l'aise et vous permet, vous, de réagir à cette réaction vocale de l'autre d'une façon très positive et très empathique.
La voix, c'est un instrument, Jean-Abel. C'est l'instrument par excellence de l'être humain, pour
absolument.
Entendu. Hein.
La voix, c'est l'instrument vocal, c'est l'instrument de musique du corps humain. Mais ça, c'est le côté mécanique. La respiration, c'est la force et la puissance de votre voix. Les cordes vocales vont vibrer pour donner la vibration vocale. Et les caisses de résonance, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, là, je viens de pincer mon nez.
On l'entend tout de suite. Hein.
Voilà, j'ai pas changé ouais. mes cordes vocales, j'ai tout simplement changé la caisse de résonance. Et donc la voix, c'est mécaniquement les poumons, les vibrations des cordes vocales et la caisse de résonance. Donc le larynx, c'est un instrument à cordes et à vent. Premier point. Deuxième point dans la voix. Ça, c'est le côté mécanique. Mais cette voix, comment va-t-elle fonctionner? Qu'est-ce qui se passe? C'est le cerveau qui est le maître, qui est le chef d'orchestre, qui a son sang. À premier point, l'espace de Wernicke, qui est un peu technique, et puis l'espace de Broca, qui sont des aires cérébrales dans le cerveau. Wernicke va donner l'ordre des mots et Broca va donner le nombre des mots. Et là, c'est extraordinaire. On est toujours dans la mécanique. Puis, brutalement, l'émotion va venir habiller cette mécanique. C'est la main qui tient l'archer lorsque Yehudi Menuhin va jouer. C'est la main qui va tenir le tambour lorsqu'on va jouer du tambour et la façon, le rythme qu'il va donner. Et là, c'est le monde émotionnel qui se met en marche.
Et tout ça en une fraction de seconde.
En une fraction de seconde. Et l'exemple le plus extraordinaire pour donner le pouvoir de la voix humaine, c'est une expérience qui avait été faite en Australie chez les aborigènes. Quelle histoire incroyable! On fait écouter une trentaine d'aborigènes au centre de l'Australie. Les Beatles, on fait écouter Ray Charles, on fait écouter Michael Jackson, on fait écouter la Calas. Quand ils écoutent Ray Charles, Beatles, ils bougent pas. Et puis la Calas se met à chanter. Et tous les aborigènes se mettent à pleurer. Tout simplement, ils comprennent pas ce qu'il dit. Mais la musicalité de cette voix les a emportés dans un monde qui est un monde émotionnel, qui est un monde imaginaire, où là, ils laissent passer le rêve.
Ça, c'est vraiment le pouvoir de la voix, de voix qui transcende toutes les cultures, toutes les époques, toutes les traditions.
Exactement. C'est-à-dire que la Calas, en chantant, elle a un vocabulaire qu'ils ne connaissent pas, bien sûr. Mais on est au-delà de la culture. On est à la fois immanence, c'est la force intérieure de notre voix, transcendance, c'est la force qu'on va donner aux autres dans sa voix et qu'on va transmettre avec les autres.
C'est qu'il y a beaucoup d'aspects dans la voix, parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite à l'aspect communication, ce qu'on transmet aux autres, mais la voix, on l'entend, nous aussi, elle résonne à l'intérieur de nous-mêmes, il y a la voix intérieure. Hein,
absolument,
aussi, hein.
Alors, au niveau de la voix, il y a deux choses, pour revenir au contexte mécanique. Premièrement, quand je vous parle, je parle avec ma voix que vous entendez, mais la façon dont vous l'écoutez. C'est pas la façon dont moi je m'entends. Parce qu'elle a fait un circuit qui est le circuit extérieur de mes lèvres à mon oreille, mais elle a résonné à l'intérieur de moi-même.
Voilà pourquoi on n'aime pas sa voix. Parfois on ne la reconnaît pas en tout cas.
Exactement. Pour la raison suivante est très simple. C'est quand elle résonne à l'intérieur de moi-même et que j'entends donc cette alchimie entre ma voix extérieure et ma voix intérieure, ce mélange des deux voix que j'entends moi-même pour ma propre voix. Mais à ce moment-là, j'ai fait résonner mon corps qui a une résonance dans les graves. Et quand je l'entends au niveau de mon iPhone, par exemple, je n'entends que ce que vous entendez vraiment. Donc, entre guillemets, ma vraie voix pour les autres,
plus
mais
aiguë.
Pas pour moi. Et à ce moment-là, vous effacez certains graves et je l'entends plus aigu, donc je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle me gêne, car ce qui me plaît, c'est les graves. Alors, pourquoi la voix est très aimée
dans les fréquences graves. Tout simplement, il faut revenir au tout petit embryon que nous étions, au fœtus, où le filtre du liquide amniotique, c'est-à-dire du liquide qui est dans le ventre de l'utérus de la mère, entend les voies filtrées, les aigus passent pas, les graves passent très bien. Et l'oreille humaine est déjà prête à écouter ces voix graves dès l'âge de 3 mois quand il devient fœtus. Et là, quand on écoute Mozart pour cette femme enceinte, lorsqu'elle écoute des voix, de belles voix, l'enfant, lorsqu'il va naître, le nourrisson, va avoir un sourire béat à 2-3 mois et ne va pas pleurer s'il réécoute les mêmes musiques.
Je vous propose, Jean Abitbol, d'écouter une des voix les plus rassurantes peut-être, mais aussi les plus puissantes et les plus émouvantes qui soient, celle d'Angélique Kidjo, que vous connaissez bien.
Très bien.
On écoute Bléou sur RFI.
Bléou.
La voix d'Angélique Kidjo sur RFI.
C'est quelque chose de, que vous savez très bien, j'aime beaucoup Angélique Kidjo, d'abord je la connais très bien, d'autre part, il faut juste rappeler qu'elle a eu les Grammy Awards cette année, le 22 février à Los Angeles.
Bravo Angélique.
Où je suis allé la voir pour recevoir ses Grammys et c'était extraordinaire, car finalement, dans sa voix, elle a toute l'Afrique, mais elle a toute cette empathie pour le monde, et pas seulement pour l'Afrique. Et ce qui est super dans cette voix qu'on entend uniquement accompagnée avec une guitare, c'est cette sincérité, cette force qui est le nid même de la voix humaine, qui est la naissance de cette voix, qui nous fait revenir à des choses superbes, les choses simples. Il n'y a rien de compliqué. Et là,
et
elle vient nous séduire.
Et c'est accessible à tous et à tout le monde, avec en même temps sa tradition
absolument,
béninoise,
absolument.
Et, vaudou, et, chargée de et, tout,
exactement.
De toute notre humanité.
Et ce qui
en
est
fait.
Superbe, c'est elle qui est parfaitement anglophone, parfaitement francophone, chante en béninois, et ça, quelle merveille! Car de ses racines, elle vient nous séduire, et on est tous là en train d'écouter, on ne comprend pas ce qu'elle dit, peu importe.
Mais est-ce qu'on peut expliquer la puissance, justement, d'une voix?
La puissance de cette voix vient d'abord d'une harmonie entre les poumons, les cordes vocales et la caisse de résonance, et puis cette sincérité qu'on veut faire passer aux autres, et puis bien sûr, il y a du talent, mais il y a un don. Tout le monde ne peut pas chanter comme cela. Et c'est ce don, elle a su l'exploiter et le mettre au service de l'émotion de l'homme avec un grand âge. C'est ça qui est beau.
Autour de la question, comment faire entendre sa voix, même si elle n'est pas aussi belle que celle d'Angélique Kidjo? Nouvelle question pour vous tout de suite, Jean Abitbol, c'est celle de Cécile Lestienne du mensuel Cerveau et Psycho.
Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est dans la voix et la signature personnelle? Je veux dire, on reconnaît quand même très facilement la voix de beaucoup de gens différents. Donc, quel est l'élément qui fait que nous la reconnaissons parmi tant d'autres ?
Votre réponse, Jean-Louis Boll.
C'est une superbe question parce que ça met en, complètement en harmonie le fait que 7 milliards d'individus, 7 milliards de voix différentes. À ce moment-là, c'est cette alchimie fabuleuse des 100 milliards de cellules que vous avez qui vibrent ensemble avec votre ADN et votre voix, ni plus ni moins, est la cicatrice de votre vie.
La cicatrice chacun, de votre
chacun vie. Chacun a sa vie. Ouais. Et lorsque je vous parle, quand on écoute la Calas, quand on écoute Kidjo, quand on écoute quel que soit le commun des mortels, derrière cette voix, il va transparaître quelque chose non explicable, que vous sentez intuitivement, eh bien cette signature vocale, donc la question qui m'est posée, oui, c'est la multiplicité de facteurs qui font que votre voix est ce qu'elle est. Bien sûr qu'il y a des facteurs communs, et lorsque j'habite à Toulouse, j'aurai un accent toulousain, j'habite à New York, j'aurai un accent anglais, je vais être prisonnier des mots, mais pas prisonnier, entre guillemets, du langage et de ma voix.
Et
ma
cette voix, elle évolue évidemment,
elle évolue
avec le temps,
années.
Avec les années.
Un, avec les années, et deux, avec les modes. Une voix d'aujourd'hui n'est pas la même de la voix qui a 35-40 ans. Et ça,
parce qu'on écoute les autres.
Parce qu'on écoute les autres. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on est dans un monde de zapping où il faut aller très vite pour parler, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est incroyable, rappelez-vous ce film qui avait été remarquablement joué, qui joue une soprano qui ne sait pas chanter, dont on a entendu un extrait tout à l'heure.
Marguerite, me souffle Pauline.
Et à partir de ce moment-là, l'écouter sa voix n'existe pas. Vous ne pouvez pas écouter notre voix depuis combien de temps? 150 ans, un siècle et demi, et encore.
Et elle
et
croit
encore.
Cette cantatrice qu'elle a une belle voix alors qu'elle chante comme un pied.
Autrement dit, elle n'entend pas sa voix quand elle chante. On revient à ce qu'on disait il y a quelques instants. Elle entend sa voix par son filtre personnel. Mais là, le jour où elle l'écoute, elle en meurt. Donc le pouvoir de la voix là, paradoxalement, n'est pas à l'agrandir, mais c'est de se rencontre de la réalité. Car quand vous écoutez sur une bande, ou quand vous écoutez votre voix, vous savez oui ou non si vous avez triché.
Autour de la question, pourquoi faire entendre, comment faire entendre, pourquoi et comment faire entendre sa voix, peut-on la travailler aussi, Jean-Habit Boll? C'était une nouvelle question pour vous, posée par Caroline Tourbe du mensuel Science et Vie.
Est-ce que si on s'entraîne et si on fait des exercices particuliers, on peut développer des voix différentes? Vraiment des voix qu'on n'avait pas utilisées dans les aigus, dans les graves, ou je ne sais. Est-ce que c'est possible?
Est-ce que c'est possible de rééduquer sa voix ou de la...
Alors, des voix différentes, non. On a sa voix. On va la modifier en fonction, je parle avec vous, je parle avec un patient, ou je parle avec mon fils, j'aurai pas la même voix, entre guillemets, mais c'est la même. Alors, rééduquer sa voix, oui, mais je dirais plus éduquer sa voix. La voix est quelque chose que Dieu nous a donné, c'est un trésor inestimable. Ce trésor, on l'a en nous, on l'a tous. Mais, à un moment donné, on va avoir des blessures de la vie, et on va se mettre à parler comme ça, parce que quelque part, eh bien, on a été tellement choqué par quelque chose
qu'on n'y arrive plus, on n'arrive plus à parler.
On a du mal à parler. Alors, rééduquer sa voix, la travailler, bien sûr. Travailler d'une part comme un athlète, et les grands chanteurs, les grands acteurs que nous connaissons
travaillent
comme un athlète. Ils la travaillent en chauffant les cordes vocales, qui est un instrument de musique comme les autres, en sachant les pauses, en sachant surtout conserver une belle voix, en ayant une hygiène alimentaire. Par exemple, si on est amené à faire un discours très longtemps, ne pas prendre de champagne, de rosé, de vin blanc, ou très peu de laitage, qui provoque une perte de la lubrification, c'est-à-dire de l'humidification des cordes vocales.
Qu'est-ce qu'il faut boire alors avant une émission de radio où on en parlait pendant une heure?
C'est une infusion au thym avec une cuillère à soupe de miel. Merci. Voilà, ça, c'est très très simple. Mais voilà, alors oui, on peut travailler ça. Mais oui aussi pour travailler sa voix, notamment dans ces écoles de théâtre et dans ces écoles d'embauche. Car aujourd'hui, j'ai des patients qui viennent me voir en me disant « Voilà, j'ai donné un CV, un curriculum vitae, mais on m'a demandé de passer pour expliquer comment je vais parler, pour écouter ma voix. » Je dis « Comment je fais ?» Très simple, on voit un coach vocal, savoir rythmer sa voix et donner un rythme à la voix.
Tout réponse à une question de notre auditeur à Bamako. Justement, on va y revenir dans 3 minutes, juste après le flash d'info qui vous demandait comment justement devenir un bon communicant autour de la question « Comment faire entendre sa voix ?»
Mais là, c'est capital.
On continue de s'interroger dans 3 minutes, juste après le flash d'info. Vous restez avec nous, bien sûr, Jean-Habit Boll. On se retrouve autour du pouvoir de la voix, titre de votre dernier ouvrage. À tout de suite.
Les grandes voix d'Afrique. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. Nous continuons de découvrir les mystères et le pouvoir de la voix. Titre du livre de notre invité, le chirurgien et phoniatre Jean Habitbol, éminent spécialiste de la voix humaine. Ce fantastique instrument de communication, de persuasion et de charme que chacun d'entre nous possède sans toujours le connaître et mesurer son pouvoir. À ce sujet, écoutez la belle voix intérieure d'un des plus éminents penseurs contemporains, le philosophe Souleymane Bachir Diagne.
Ce que je vois dans la voix, justement, c'est la manière dont j'inscris mon identité, parce qu'une voix, c'est parfaitement reconnaissable. D'ailleurs, paradoxalement, sauf quand je me réécoute une fois que j'ai été enregistré, mais tout le monde fait cette expérience-là. Mais la voix porte quelque chose de moi-même. Et ce croisement des voix, cette multiplication des voix, c'est un peu aussi la manière dont nous partageons notre humanité. Donc, parler de la voix en ces termes-là, qui est la multiplicité de notre humanité, la multiplicité de nos identités, mais également qui indique ce qu'il en est de l'échange nécessaire pour le vivre ensemble, me semble un excellent thème.
Vous voulez réagir, Jean Habitbol, à ces propos de Souleymane Bachir Diagne ?
Ah oui, parce que ce qui est superbe dans ce qu'on vient d'écouter, c'est que la voix est une création perpétuelle. C'est quelque part, et c'est le dernier chapitre de mon livre d'ailleurs, c'est presque comme une œuvre d'art. Mais la différence, c'est que l'œuvre d'art, elle est inscrite, vous la regardez, elle est figée quelque part comme une statue ou comme un tableau. Là, elle vient d'être créée, puis elle disparaît. Grâce à votre question, grâce à ce qu'il vient de dire, je rebondis sur un de ces mots, et il y a une communication exceptionnelle de créativité de notre esprit, qui est l'entretien même de la communication avec l'autre, et celle-ci est une empathie constante. Et là-dessus,
il n'y a plus de passé, de présent ou de futur.
Non,
finalement,
Souleymane
Bachir Diagne, c'est il y a un an ou deux qui nous a dit
on
ça.
On est dans le présent et on vient de l'écouter, il vient de réapparaître. La preuve en est, c'est quand j'écoute les voix de certaines anciennes personnes que j'aimais beaucoup qui ont disparu, j'ai la larme à l'œil, je vois une photo,
touchant.
Oui, mais la troisième fois que je vois cette photo, ça me touche, mais moins. Mais cette vibration qu'on va vous faire comprendre par l'autre, tel qu'il vient de le dire, cette identité de chacun qui vient se transférer sur l'autre est une force incroyable, est un pouvoir incroyable de cette vibration intérieure et extérieure par rapport à la voix. Elle est immanente et transcendante.
Voilà pourquoi aussi, Jean Habitbol, vous avez beaucoup réparé des voix blessées ou en souffrance. C'est même ça qui vous a donné envie de vous engager sur cette voie-là.
J'ai une anecdote, extraordinaire là-dessus. Et j'en ai deux. La première, c'est une femme qui vient me voir, c'est dans le livre. La première, c'est une femme qui vient me voir, qui a 35-36 ans, qui a deux enfants et qui parle comme ça. Donc elle a une voix extrêmement froide, elle me dit « Voilà docteur, depuis l'âge de 13 ans je parle comme ça. Je suis marié, j'ai deux enfants, un à 8 ans, l'autre à 10 ans. Mais toutes mes amies à chaque fois me disent « Mais qu'est-ce qu'elle a ta voix ?» Et j'avoue que je suis fatigué. Et dans la maison où j'habite, je suis obligé de sonner la cloche pour appeler mes enfants qui sont au premier étage.
Elle n'a pas de voix, plus de voix, peu de voix.
Elle a peu de voix. Elle avait une paralysie d'une corde vocale. Et pour parler, il faut que les deux cordes vocales vibrent et se touchent. Si elles ne se touchent pas, il n'y a pas de vibration. À ce moment-là, oui, j'ai fait une intervention dans laquelle on injecte ce qu'on appelle de l'acide hyaluronique ou bien de l'uradiase, peu importe, une substance qui permet d'augmenter la densité vocale et de toucher les cordes vocales. Et 10 jours après, elle vient me voir, la voix est superbe. Elle commence à parler normalement et la vibration est revenue. Mais on était contents tous les deux. Mais que se passe-t-il ? Un mois après, vient arriver dans mon bureau le mari et les deux enfants qui me disent d'une façon impressionnante, docteur, qu'est-ce que vous avez fait à ma mère, c'est plus ma mère.
Vous avez changé sa voix.
Ouais, et le mari me dit, mais j'ai pas épousé cette femme-là. Incroyable. Incroyable. Est-ce que vous pouvez lui redonner la voix d'avant? Et elle me dit, il n'en est pas question, je veux garder ma féminité. Et ça, c'est un pouvoir extraordinaire de soi par rapport aux autres et de soi par rapport à soi-même.
C'est aussi le pouvoir de la séduction,
de la féminité,
de la masculinité dans
tout
sa voix.
Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la voix est un atout, est un charme, mais on va prendre un contre-exemple. C'est cette histoire de cette avocate qui vient me voir, qui a une voix un peu comme ça, qui parle comme un mec, et qui vous dit, voilà docteur, écoutez, j'ai 45 ans, je suis avocate à la criminelle, je suis dans toutes les prisons, ma voix me plaît pas, vous pouvez la changer. J'examine, elle avait ce qu'on appelle un œdème des cordes vocales, elle fumait un paquet et demi par jour. Elle prenait un petit verre de whisky tous les soirs. Pas de cancer, pourquoi l'opérer? Je lui dis, vous perdez vos procès? Elle me dit, non, je gagne tous mes procès. Très bien. Il dit, opérez-moi. Pourquoi voulez-vous que je l'opère? Très simple, j'ai un petit ami qui n'aime pas ma voix. J'ai changé de petit ami, changez pas votre voix. Et elle me dit, ah non, il n'y en est pas question. Elle se fait opérer, elle vient me voir un an après. Bonjour docteur, comment ça va? Ça ne collait pas du tout.
Avec le personnage, ça n'était plus elle.
Exactement. Elle a perdu tous ses procès. Elle met une phrase terrible. Je suis devenue schizophrène de ma voix.
Terrible, terrible pouvoir de la voix. Alors, on l'a dit aussi, la voix des dictateurs, la voix des hommes politiques, c'est très important. Vous consacrez un chapitre à De Gaulle aussi, enfin, au cas De Gaulle, la voix de De Gaulle, voix de la France.
Voilà. Le général De Gaulle était quelqu'un d'exceptionnel, d'abord par sa prestance, et puis c'est une voix qui a passé, entre guillemets, les générations, 1940, 1945.
À chaque fois avec sa voix.
Avec sa voix, lui. Et puis on arrive à une période qui, moi, est dans laquelle j'ai vécu, puisque j'étais en première année, c'était en 68, mai 68. On l'écoute vers le 27 mai, française, et on dit oui, bon, enfin, ça va, quoi. Il nous parle à la télévision, on le regarde deux minutes, on l'écoutait même plus. Et puis le 30 mai, à 16h, l'écran est noir, à la Sorbonne, et il parle, mais on ne le voit pas. Les Françaises, Français, les travailleurs doivent travailler, les étudiants doivent étudier, je me rappelle encore comme c'était hier. Et là, on a un blanc dans l'amphi, on dit il faut qu'on y aille. Qu'est-ce qui s'était passé? Sa voix était devenue une voix, entre guillemets, de protection, mais également, on avait perdu l'image du père, et là, on n'avait plus quelqu'un à qui on pouvait s'agresser sur le plan de l'image, mais la voix, on ne peut pas l'agresser. C'était l'une des puissances, d'ailleurs, des grands dictateurs également.
Le pouvoir de la voix, le pouvoir de la voix des imitateurs. Oui. Vous en avez croisé beaucoup, hein, ils sont venus dans votre cabinet aussi. Oui. Comment ils font les imitateurs?
Les imitateurs, ils changent leur voix. Comme Thierry Garcia, comme Laurent Gérard, comme Nicolas Canteloup, que tout le monde connaît. Eh bien, ces imitateurs ont un don. Certes, c'est des acrobates du larynx. Ils ont des cordes vocales asymétriques. On n'a que deux cordes vocales. J'ai oublié de signaler, c'est quand même pas long. Que deux cordes vocales. Qui font à peu près 2,2 cm chez l'homme et 20 mm chez la femme, 2 cm chez la femme de long et 4 mm de large. Eh bien, l'imitateur a ce don d'athlète vocal, de muscler sa voix, mais il entend la personne qu'il va imiter comme vous l'entendez. C'est-à-dire qu'il a court-circuité son circuit vocal intérieur. Et ce don de l'écoute de l'autre, de l'imitation, comme quelqu'un d'exceptionnel que vous connaissez dans les voix chantées, qui est Michael Gregorio, eh bien on a l'impression qu'il est en train de chanter du Ray Charles ou du Joe Cocker.
Parce qu'en fait il devient quelque part...
Enfin, il ne devient pas, il reproduit la phonation, les phonèmes, les silences de l'imiter. Et à ce moment-là, grâce au fait qu'il écoute parfaitement bien, que son écoute est un don également, le mélange de l'écoute et de la puissance athlétique de sa voix fait que c'est l'imitateur.
Donc c'est presque plus l'oreille qui fait l'imitateur que la voix. Autour de la question comment faire entendre sa voix, je vous propose Jean Abidol un nouvel éclairage dans l'exposition sur la voix qui s'est tenue à la Cité des Sciences à Paris et qui circule maintenant dans le monde entier. La voix, l'expo qui vous parle est actuellement à Macao, au Musée des Communications, jusqu'en novembre, notre reporter Alice Milo y avait, à Paris, fait tourner son micro, séquence émotion.
J'aime pas du tout ma voix, justement. J'ai beau essayer de forcer pour pas faire la voix que j'ai d'habitude, mais elle revient quand même. Même en essayant de la changer, je la reconnais quand même. Sur le répondeur du téléphone, on a enregistré un message quand je m'entends, mais c'est l'horreur. Ben, je me reconnais pas, c'est comme si c'était pas moi. Et j'ai horreur de l'accent du midi. Voilà.
Et donc vous essayez de le gommer?
Ben j'essaye, mais je peux pas. Même quand j'essaye de parler un peu pointu à la parisienne, ça marche pas. Non, c'est très difficile. Hein. C'est ancré au fin fond de soi. Et
pourtant, malgré tout ce que vous me dites, vous faites du chant.
Ah oui, parce que alors, quand on chante, il n'y a pas l'accent, justement.
Vous me montrez?
Io credo dir tra gli alberi un sussurro di giunge in volto una creonda di odore.
C'est très joli. Et là, pas d'accent du sud.
Vous voyez, ça fait un peu italien. En fait, j'ai l'impression, comme c'est de l'italien, d'avoir l'accent italien. De suite, ça plaît plus, quoi.
Étonnant éclairage, une visiteuse de cette exposition sur la voix. C'est étonnant quand même à quel point elle peut avoir une voix qui ne lui plaît pas, qui a un accent. Quand elle se met à chanter,
Mais c'est un peu ce qu'on voit. Parce que la voix va faire un territoire au niveau cérébral qui est le cerveau gauche pour la raison, le cerveau droit pour l'émotion. C'est caricatural, bien sûr, mais pour mieux expliquer les choses. Et on sait parfaitement que quelqu'un qui bégaye, lorsqu'il chante, ne bégaye pas. Car à ce moment-là, il a court-circuité son monde de la raison pour passer dans le monde de l'émotion. Et le chant passe dans le monde de l'émotion. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes à un concert, vous oubliez, vous êtes dans cette empathie remarquable, exceptionnelle de l'émotion pure, vous vous laissez aller dans le monde du rêve, de votre pensée, sans avoir besoin de dire 2 et 2 font 4. Avec le chant, 2 et 2 peuvent faire 5.
Le pouvoir de la voix, le pouvoir de la musique, pouvoir hypnotique, parfois également. Aussi, hein, oui. Un de vos chapitres s'appelle « Des dieux et des voix » ou « Un dieu et des voix ». Un de nos auditeurs à côté de nous, d'ailleurs, nous a fait la remarque suivante, il nous a dit « Mais il est tellement agréable de prier longtemps avec un imam qui a une belle voix. Oui. » Et en revanche, quand il n'a pas une belle voix, oui. L'imam, c'est plus dur.
Pour la raison simple, c'est une très belle question. Et ça, c'est le pouvoir de la voix dans les neurones miroirs. Qu'est-ce que c'est ? Les neurones miroirs que nous avons tous, c'est quand, par exemple, je vois quelqu'un jouer au tennis, mon cerveau va faire les mêmes gestes sans que je bouge au niveau de cérébral et va exciter, et la lumière s'allume dans mon cerveau par une IRM fonctionnelle, on le voit, la lumière qui s'allume au niveau du cerveau, c'est les muscles qui vont se mettre en marche si je joue au tennis. Eh bien, dans la voix, c'est pareil. Lorsque je vous parle, si la voix avec laquelle je m'exprime vous plaît, si je suis dans une empathie positive en ce qui vous concerne, en ce qui me concerne, il y a une connexion et les neurones miroirs se mettent en marche et je veux faire plaisir, c'est le cerveau de la récompense, et en faisant plaisir, je vais non seulement écouter, mais je vais à un moment donné mimer cette voix à l'intérieur de moi-même, donc je vais rester à l'écoute, et en restant à l'écoute, je vais quelque part amplifier mon monde émotionnel. Maintenant, si la voix que j'écoute est vraiment désagréable, ça va durer 20 secondes. Si je suis obligé, je le fais, mais j'aime pas le faire.
Et c'est vrai qu'en radio, quand on a des gens qui parlent mal, on a tendance à parler mal, alors qu'au contraire, on est embarqué.
Exactement.
Le pouvoir de séduction de la voix, parce que alors, ça, on n'a pas encore abordé, Jean-Abitbol, mais c'est quand même sacrément quelque chose.
Oui, ça, c'est quelque chose. D'autant plus qu'on a pu le montrer scientifiquement. C'est-à-dire qu'une voix qui séduit est une voix dans laquelle il y a l'empathie dont je viens de parler. Il y a également l'effet des neurones miroirs, puis il y a quelque chose d'autre, qui est ce côté où chez la femme, on aime bien sûr en tant qu'homme les sons aigus, mais il faut, pour qu'une voix de femme soit belle, qu'il y ait des fréquences graves. Car le noir ne veut rien dire sans le blanc et réciproquement, il faut un relief. Et la beauté notamment de la voix de Kidjo, c'est ces reliefs où on a un son aigu, mais quelle charpente en dessous grave qui vient la soutenir, qui vient nous bercer et qui vient nous sécuriser, mais qui vient quelque part. Quand je l'écoute, sécréter à l'intérieur de moi-même des hormones qu'on appelle les hormones du plaisir, l'ocytocine, que sont la dopamine, que sont quelque part également les endorphines. Et puis chez l'homme, eh bien c'est sa voix grave qui est prédominante. Mais s'il n'a pas d'aigu, si je vous parle comme ça pendant 5 minutes, c'est horrible. Eh bien quand on a
c'est
la voix
contraste, hein, c'est
complètement de Robert Hossein, de Gérard Darmon, d'André Dusselier, par exemple, pour ne citer que, eh bien ces voix graves comme cela ont une consonance aiguë derrière, la charpente là est aigu, mais la voix de fondamentale est grave, et c'est cette alchimie entre ces deux éléments qui font qu'une voix va séduire. Et on le sait scientifiquement, une voix va vous séduire lorsqu'au bout d'une à deux minutes, on fait une prise de sang, si elle vous a séduit, on voit le taux d'ocytocine qui grimpe et le taux d'endorphine.
Et vous-même, quelles voix vous ont séduit, Jean-Abitbol? Vous en avez entendu tellement,
ausculté
tellement.
Bien sûr, moi j'aime beaucoup... Si vous voulez, le blues, c'était un scrap pour personne, comme Richard, Joe Cocker, tous ces gens-là. Et bien sûr, la voix de La Calasse, et bien sûr, la voix de Céline Dion. Car finalement, Céline Dion est à la variété ce que La Calasse est à l'opéra. Et Kidjo est sur le plan international, absolument inimitable également. D'ailleurs, la preuve en est, personne n'est arrivé à l'imiter, c'est quand même quelque chose.
Elles sont venues vous voir, toutes les deux. Enfin, pourquoi pour, vous ne pouvez beaucoup, pas dire, elle est le secret médical.
Voilà. Mais enfin bon, Céline le dit, donc il n'y a pas... Je veux dire, on a fait une émission il n'y a pas longtemps. Mais pareil pour, si vous voulez, Kidjo, que je connais bien. Elles ont, de toute façon, dans leur corde vocale, dans leur façon de chanter, il y a un élément particulier, il y a un charme là, qu'il ne faut surtout pas enlever. Car une voix normale, ça n'existe pas. Ce qui est beau, c'est l'imperfection de la voix. Ce qui est beau, c'est quand vous entendez cette fragilité derrière, où vous vous dites, oula, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est fragile. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, elle va passer, mais surtout, elle va faire transpercer complètement son émotion vers vous. Et c'est une empathie extraordinaire, car un artiste vocal se met pratiquement à nu devant vous. Il ne cache rien, car s'il n'est pas sincère, il a cassé.
Autour de la question comment faire entendre sa voix, je vous propose, Jean-Abitbol, d'écouter cet instrument humain, si humain, qui remplace à lui seul tous les autres, la preuve avec ce groupe allemand Bauerklang, La Voix du Ventre, un quintet de beatbox composé exclusivement de voix. Il n'y a pas un seul instrument dans la version de Roxane, qu'on écoute tout de suite sur RFI. Oh, Roxanne, version beatbox, ouais, sur RFI, le quintet Bauerklang, composé uniquement de voix.
Remarquable.
C'est bluffant, Jean Habitbaum, mais vous avez reconnu qu'il y en a cinq des voix. Vous entendez les cinq voix.
Oui, parce que j'ai un peu l'habitude à force, mais ce qui est fabuleux, par exemple, dans une chorale, on va prendre un exemple de ce pouvoir de la voix superbe de chacun. Finalement, dans une chorale, chacun est un instrument de musique. Et le chef de chorale est le chef d'un vrai orchestre. Mais une va être le soprane, l'autre va être un ténor, l'autre va être un baryton. Et puis là, eh bien, il y a des voix et puis il y a des instruments qui sont ni plus ni moins que des voix humaines qui viennent imiter des instruments. Donc en fait, l'instrument voix existe et dans une chorale, c'est un chef d'orchestre de voix. C'est pas en fait une voix particulière, mais c'est vraiment...
C'est toutes les voix ensemble.
Exactement, une harmonie entre les voix.
Autour de la question, comment faire entendre sa voix et pourquoi ça nous procure tant d'émotions, je propose un dernier éclairage, celui du professeur Bernard Sablonnière, qui est chercheur à l'INSERM, médecin biologiste et auteur des Territoires du cerveau. Il était récemment notre invité.
La voix, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du timbre, en fonction du rythme, en fonction de la capacité à mettre les mots à la suite des autres sans hacher son discours, on va stimuler différentes régions du cerveau sur l'auditeur ou l'interlocuteur. Et certains ont cette capacité à d'emblée toucher le cerveau des émotions, qui fait qu'on va ressentir le contenu du texte de façon différente en fonction de la personne qui parle, même avec le même texte. Donc c'est intéressant.
C'est le timbre de celui qui parle qui va toucher.
Ça peut être le timbre, ça peut être la fréquence, ça peut être le rythme d'arrêt, des phrases, d'hésitation, etc. Comme je viens de faire, voilà, qui peut jouer.
Les voix touchent directement le cerveau des émotions, Jean Habitbaum, et les silences sont importants aussi.
Oui, ce qu'on vient d'entendre est un travail absolument remarquable qui est fait depuis presque 7 ans maintenant. Et notamment ce collègue remarquable et d'autres à New York, notamment un institut acoustique, qui ont démontré une chose incroyable. C'est que dans la voix humaine, vous avez un rythme, vous avez des pauses, mais le rythme n'existe que chez l'être humain.
L'être humain.
C'est-à-dire que si je fais comme ça, vous êtes capable de faire le même rythme en l'espace de 4 secondes. Le perroquet aussi. On est en train de voir si le dauphin y arrive. Les autres vont mimer ce que vous faites sans avoir conscience du rythme. Non, le rythme dans une voix donne la vie à la voix.
Et c'est le propre de l'humain, ça.
C'est le propre de l'humain. Il va donner la vie à la voix. Et si ce rythme, vous le connaissez déjà parce que vous l'avez entendu dans votre enfance, vous allez faire appel à justement ces hormones de l'enfance et vous allez être conquis tout de suite par la séduction de ce rythme, car quand vous écoutez un orchestre, si vous écoutez les Beatles, qui est une époque que j'ai adorée, si vous écoutez les Rolling Stones, au rythme même d'Esky ou Prince, au rythme au bout de quelques secondes, dedans, et là je suis positif, j'y suis, c'est le rythme
ça
qui est parti avec la voix. Et c'est le mélange, cette harmonie entre rythme, voix, silence, qui font effectivement qu'à ce moment-là, le rythme, comme il vient de le dire, de l'émotion se met en marche. L'émotion n'existe qu'avec un rythme vocal, des pauses et une musicalité.
Et la voix intérieure, alors, parce qu'on l'a évoqué au début de cette émission, on pense évidemment à la voix comme partage, à la voix propre de l'homme, mais elle vous intéresse aussi, cette voix intérieure,
ce que j'appelais la voix du silence, c'est-à-dire que personne n'entend et pourtant elle est tellement forte. C'est la voix des croyants, bien sûr, mais c'est la voix également de cette force du sportif. Tous les sportifs, et j'ai fait des sports de haut niveau pendant 10 ans, avant de partir sur une course, eh bien, la force, je me disais, bon, là, tu vas gagner, là, il faut y aller. Mmh. Et cette force que vous vous dites, que vous parlez à l'intérieur de vous-même, eh bien, à ce moment-là, elle va vous énergiser, si ce terme existait, puisqu'elle va vous donner ce pouvoir de combattre l'homme, en disant, ça, rien à foutre qu'elle agit là, comment il est grand, moi, je vais y arriver. Et on voit très bien ça dans les équipes, où on dit, rappelez-vous cette phrase, il va l'avoir au mental. Qu'est-ce que c'est que le mental ?
C'est la petite voix intérieure, mais qui peut aussi des fois dire de mauvaises choses, avoir trop de voix dans la tête.
Et qui risque de vous détruire, absolument. Dire, de toute façon, je n'y arriverai pas, mais ce n'est même pas la peine de commencer. Hein. Et ce mental...
Le pouvoir de la voix même intérieure.
Hein. Exactement. Et quand on dit, ils ont eu le mental, quand on parle par exemple de l'équipe de foot, ils ont le mental, et bien ce mental, Il se communique, c'est une empathie, le mental. Si l'un vient avec un mental négatif, on va être mal, quoi. Et ce communicant vocal du mental intérieur est impressionnant de force et de pouvoir par rapport à notre ambition, bien sûr.
Il reste quand même beaucoup de mystère sur la voix. Dites vous-même, hein, et vous dites qu'au fond, il faut quoi comprendre de plus en plus et de mieux en mieux toutes ces voix, mais en même temps garder ce mystère.
Mais je vais vous donner un exemple du mystère de cette voix. Si on prend quelqu'un, bien sûr, que tout le monde connaît, c'est Stephen Hawking, celui qui a découvert l'espace-temps. Il parle par une machine parce qu'il est atteint d'une maladie extrêmement grave.
C'est une voix de synthèse. Et il a choisi quand même.
Exactement. C'est-à-dire qu'il a choisi en tapant sur un écran. Mais on sait parfaitement aujourd'hui, si je vous mets un casque avec des électrodes, vous pensez à un mot. C'est en plein de travail actuellement à l'Université de Lausanne. Le mot, dans la seconde, va être retransmis à un ordinateur et on va parler avec la voix de Stephen Hawking ou avec la voix de Gérard Darmon ou avec ma propre voix ou la vôtre. Donc il aurait été capable de choisir une autre voix. Mais il veut garder cette voix qui est la voix d'ordinateur car quelque part, ça lui donne ce mystère vocal et ça lui donne cet espace-temps dans lequel il vit. Et la traduction de l'écoute que nous avons, c'est oh là là, incroyable. Quoi qu'ils disent, il a qu'à dire prend un café. Oh là là, il a dit on prend un café. Et c'est la magie de la voix.
C'est la magie de toutes les voix, même les voix électroniques. Vous travaillez d'ailleurs aussi sur ces voix du futur où les travaux des chercheurs de l'IRCAM vous intéressent aussi. Voix de synthèse, mais qui auraient le même pouvoir émotionnel ou un pouvoir différent.
Pas tout à fait le même pouvoir, mais ils ont un pouvoir chez les gens solitaires. Chez les gens qui ont un certain âge, seuls chez eux. Et j'ai une expérience incroyable d'un de mes patients qui m'a dit, depuis que j'ai ma tablette et je tape dessus et que je peux lui parler, je parle avec ma tablette, je ne suis plus seul. Donc le fait d'écouter la voix de l'autre et de questionner même une tablette,
même une voix reconstituée.
Mais cette voix du robot, elle est humaine. Pour quelle raison elle est humaine? Parce que dans la fréquence qu'on a reproduit chez ce robot, elle n'est absolument pas parfaite. Le « là », c'est 438, c'est 440, c'est 446, c'est 430. Donc quand il va faire un « là », la note, eh bien la note, elle ne sera jamais la même. Comme vous, comme moi, lorsqu'on parle, on n'a jamais la même intonation. Eh bien on a réussi, par un artefact très simple, qui est le nombre pi, 3416, de reproduire cette imperfection vocale dans le robot. Et là, on a l'impression de parler à un être humain, car l'être humain, heureusement, n'est pas parfait.
Si je vous suis bien, oui, c'est l'imperfection et notre voix qui nous fait humains, hommes ou femmes.
Oui, absolument. C'est ça qui est beau.
Jean Habitbol, est-ce que vous avez travaillé votre propre voix, vous aussi?
Non, jamais. Enfin, je m'en contente. Elle est là. Tant qu'elle est là, comme dit l'autre, je ne sais pas ce qu'elle est, mais le jour où elle ne sera plus là, c'est là où je m'en apercevrai.
Et avec l'âge, justement, la voix...
Alors l'âge, aujourd'hui, n'est plus un argument de vieillissement de la voix, pour la raison simple. C'est que la voix vieillit si vous ne l'entretenez pas. Regardez Charles Aznavour. C'est quand même extraordinaire. J'ai la chance de le connaître depuis des années. C'est un monsieur qui, aujourd'hui, a 92 ans, qui chante magnifiquement bien. D'accord, on me dit, oui, sa voix fatigue un peu. Oui, d'accord.
Ouais, okay.
Mais ça va, quoi. J'aimerais bien chanter comme lui. Donc la voix ne vieillit pas si vous l'entretenez. Le seul vieillissement d'une voix, c'est les cicatrices. Alors là, quelquefois de la maladie, mais également émotionnelle. Et là, on ne peut pas faire grand-chose si on ne passe pas au-dessus en ayant quelqu'un qui parle avec vous et qui vous fait quelque part penser cette voix, cicatriser cette voix dans laquelle vous avez souffert pour venir à quelque chose d'empathique et de positif.
Les cicatrices de la voix, c'est ce qui nous fait, hein, pour le meilleur et pour le pire. Merci infiniment.
Merci à vous.
D'être venu en direct faire entendre votre voix et toutes nos voix sur RFI. Jean Habitbol, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru aux éditions Alary, Le pouvoir de la voix consommée sans modération, juste pour le plaisir de nous entendre une autre fois peut-être. Merci.
Merci beaucoup.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Demain, entre goût et dégoût, autour de la question pourquoi mettre les insectes au menu? Info ou intox, les insectes vont-ils nous nourrir demain? Nous ferons le point avec un entomologiste et un spécialiste en nutrition. Émission mitonnée par Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, bon appétit. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.
filles